Bienvenue à chacune et à chacun de la part de l'Éternel, notre Dieu. Son amour nous habite, sa présence nous éclaire, sa parole nous fortifie. Alors levons-nous pour chanter ce Dieu qui nous accueille avec le répond indiqué dans le livret liturgique qui figure au début de notre psautier. Éternel, tu es ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es lutte contre la mort, tu es source de miséricorde. Entre moi et ce qui m'écraserait, tu mets l'infini de ton amour. Entre toi et moi, comme le Père serre son enfant contre lui, tu supprimes toute distance. Loué sois-tu. Amen. Poursuivons notre louange par le chant du psaume 101. Notre organiste nous le jouera une première fois afin que nous l'ayons dans l'oreille, après quoi nous chanterons les strophes 1 et 2 du psaume 101. Prenons place et entendons à nouveau le message autrefois délivré qui résonne dans cette épître de Jean. Aimons-nous les uns les autres. À ceci, désormais, nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et je précise, au cas où ce ne serait pas clair, il a donné sa vie, il n'a pas donné sa mort, dit Jean. En conséquence de quoi, ajoute-t-il, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Mes amis, n'aimons pas en discours, en belles paroles, mais en actes et en vérité. Éternel, Père, Je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais mieux que moi, je ne suis pas un être parfait. Je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ses jours et ses nuits, ses grandeurs et ses faiblesses, afin que toute ma vie soit placée devant toi. Alors c'est vrai, tu n'as pas été le Dieu unique de mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et il y en a un immense. C'est moi-même. Je ne veux pas tant m'humilier devant toi que te demander, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je doive faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Quand notre cœur nous condamne, nous rappelle également Jean dans cette lettre, souvenons-nous que Dieu est plus grand que notre cœur. Écoutons aussi la parole de l'apôtre, elle est certainement digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour accueillir les pécheurs, dont je suis le premier. À chacun de nous, cette parole redit très explicitement le pardon de Dieu, et cette parole ouvre pour chacun d'entre nous une vie libre et responsable. Rendons grâce à Dieu par notre chant.
Vous pouvez prendre place. Bienvenue tout particulièrement à François Lachaud qui a demandé à faire sa profession de foi parmi nous ce matin. Alors le parcours de François Lachaud est particulièrement riche, nourri des arts et des savoirs, des langues et des livres, nourri aussi particulièrement par le livre qu'il aime bien lire d'ailleurs dans cette langue délicieusement shakespearienne de la version King James. Alors c'est vrai que vous avez un parcours riche parce que vous avez donc étudié en France, mais vous êtes aussi traversé par Oxford, par les États-Unis et puis particulièrement par le Japon où vous avez rencontré donc les moines zen. Vous avez aussi poursuivi votre enrichissement à l'Institut des sciences religieuses où vous êtes actuellement, mais aussi dans la fréquentation des œuvres de Beckett, de Tocqueville, de Constant, de Calvin et de bien d'autres. Et vous avez nourri votre cheminement donc de ces livres, de ces rencontres, mais aussi peut-être à travers le rugby, à travers l'histoire familiale, à travers tant de rencontres. Et vous avez choisi finalement de marquer votre désir d'être disciple du Christ aujourd'hui et de le faire donc dans l'Église réformée, dans l'Église protestante, et particulièrement dans l'oratoire. Alors pour nous, c'est une joie, c'est un honneur et c'est vraiment un enrichissement de vous entendre ce matin. Et puisque, bon, je propose que vous nous rejoigniez, que les gens puissent vous voir, oui, venez, venez ici. Et puisque la confession de foi obligatoire que nous proposons donc, pour devenir membre de l'Église chrétienne et membre de l'oratoire en particulier est Jésus-Christ est le Seigneur, eh bien, je vous propose de vous ouvrir, de méditer ensemble eh bien, ce témoignage de l'Évangile selon Jean sur le Christ comme Seigneur. Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé, il entrera, il sortira en toute liberté et il trouvera la vie. Jésus-Christ est le bon berger, il connaît ses brebis et elles le connaissent. Et il donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui a foi par lui vivra quand même il serait mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Par lui, chacun peut aller au Père. Et Jésus-Christ est la vraie vigne et le Père est le vigneron. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. François, est-ce que avec l'Église chrétienne, vous voulez confesser votre foi en Christ ?
Oui, je le veux.
Alors François a préparé une confession de foi qui sera la nôtre pour ce matin, aujourd'hui. Donc je vous propose de vous lever pour vous unir par la foi à cette déclaration de croyance chrétienne.
Je crois au Dieu unique, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, du globe terraqué, de l'univers visible et de celui qui demeure interdit à nos sondes. Je crois en Jésus-Christ, son seul Fils, qui, nonobstant notre condition de pécheur, est mort pour nous et ressuscité. Je crois que depuis sa gloire, il reviendra juger les vivants et les morts, alors son règne ne connaîtra pas de fin. Je crois en sa parole, telle qu'elle nous est transmise dans la Bible, ce livre des livres, toujours à méditer, à interpréter et à vivre. Je crois au Saint-Esprit, qui nous donne force et confiance d'être les enfants de Dieu. Je crois au royaume, à la vie éternelle, au triomphe de l'amour sur la mort. Qu'importe le mérite que l'on me prête, le rang que le sort m'assigne, les œuvres que je puis accomplir, je crois que tout procède de la pure grâce de Dieu. Je crois aussi fermement à ce qu'écrit Calvin dans le sermon 46 de ses sermons sur le livre de Job. Voilà Dieu qui veut que nous comprenions quel il est, non pas que nous puissions venir jusqu'au bout de cette sagesse, car c'est un abîme trop profond, mais le fait demeure que selon notre mesure, il nous faut être diligents et faire en sorte que nous soyons bons écoliers de Dieu.
Un grand merci. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre, mais vous, je vous garde là. Non, François. François, vous avez reçu autrefois le baptême, signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne et comme donc en particulier membre de l'Église que nous formons ce matin, aujourd'hui. Dieu vous bénit et vous garde. Il éclaire votre route par sa parole. Il vous donne la paix par sa présence, oui. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et qu'il vous les renouvelle jour après jour, et que vous soyez, grâce à cet Esprit, bénédiction pour ceux qui vous sont confiés. Alors vous avez accepté de dire quelques mots sur ce qu'il vous semble important, ou en tout cas ce qu'il vous a apporté pour franchir des étapes décisives dans ce cheminement qu'est le vôtre. Alors merci si vous pouvez nous en faire part. Alors c'est vrai que c'est un cadeau que vous nous faites ce matin. Merci François. Merci.
J'ai hésité 3 décennies avant que de professer ma foi. C'est long, trop peut-être. Je suis venu et revenu à Dieu par le livre et par les livres. Ayant grandi entre l'Église catholique romaine et la Haute Église anglicane, qui toutes deux ont ma reconnaissance, j'ai longtemps voulu suivre un autre chemin. En cette voie incertaine, Samuel Beckett fut un compagnon de chaque jour. Dans l'un de ses derniers textes, n'écrit-il pas « Essayer encore, rater encore, rater mieux ». Connaît-on de meilleurs encouragements à déclarer sa foi de la part d'un douteur qui jamais ne cessa de fréquenter la Bible, qui sonda la nuit sans relâche, sans renoncer à toute aurore. Mon choix s'est affermi à pas aveugle à travers le monde, des serres de Magdalen College de mes 20 ans, à ceux de Nara, puis de Washington, des monastères du Japon, où je séjournais 15 années, aux sombres églises presbytériennes de Nouvelle-Angleterre. Cette profession procède aussi du souvenir, par le temps érodé, de celles et ceux qui, il y a plus de 3 siècles, furent poursuivis par landes et forêts dans les terres inhospitalières du sud-ouest pour leur foi réformée, par celui, plus vif de ceux qui hier encore, furent livrés à la plus grande barbarie moderne pour être restés fidèles à l'Alliance, à ce lieu des Écritures hébraïques et à cet homme de douleur, habitué à la souffrance, ce juif nommé Jésus. J'aimerais partager avec vous ce poème de Nelly Sachs. Job. Au toit rose des vents, de tous les tourments, par les tempêtes de la nuit des temps, sans cesse entraîné vers d'autres ouragans, ton sud encore s'appelle solitude. Là où tu t'arrêtes, là est le nombril des douleurs. Tes orbites sont creusées profondes dans ton crâne, comme les grottes des colombes dans la nuit, que le chasseur à l'aveuglette fait sortir. Ta voix est devenue muette, car elle a demandé trop de pourquoi. Ta voix s'en est retournée aux vers et aux poissons. Job, tes pleurs ont traversé toutes les veilles de la nuit. Mais un jour, la constellation de ton sang fera pâlir tous les soleils levants. J'ai commencé en mentionnant un auteur dramatique. Je continuerai en citant l'un de nos plus grands acteurs, Louis Jouvet, qui fut aussi, on le sait moins, un grand chrétien tout frotté de Pascal. Cela débute ainsi, s'abandonner et se perdre. Et quand on a pratiqué longtemps, aveuglément, avec de temps en temps, en éclair fugitif, la sensation de cet état, de ce phénomène, dans le désordre de l'action, de l'agitation ou l'ambition, après toutes les critiques, les pauvretés, les indigences, la dérision, tout ce qui est humiliant, on se retrouve épuré par une longue pratique ou par une studieuse réflexion, en face de cette admirable conclusion, se donner, s'abandonner, se perdre, une destruction de soi efficace, un néant qui est l'aboutissement de toute perfection, dans un au-delà qu'il faut considérer comme une fin, comme un but à l'activité humaine et qui est sans doute son véritable commencement, une naissance véritable. Merci de votre écoute.
C'est nous qui vous remercions, François. Merci beaucoup pour ce que vous nous apportez ce matin et ce que vous rayonnez autour de vous chaque jour. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, en particulier pour cet amour qui nous accompagne, qui ouvre notre cœur, qui nous donne une force, qui nous donne un enthousiasme de vivre, d'avancer, de lire, de partager, de parler. Ô notre Père, nous te remercions pour ce frère que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie et plus grande encore, nous le savons, est dans l'immense communauté des hommes et des femmes qui te cherchent, et particulièrement auprès de ceux qui te cherchent en Christ. Merci pour ce moment de foi, de confiance en toi, et ce moment de témoignage, de parole. Fortifie notre foi, que celle de François puisse grandir parmi nous, et que nous puissions grandir dans la foi grâce à lui. Sa venue parmi nous ce matin est un témoignage de courage d'être et d'engagement. Aide-nous à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à nous approcher sans cesse plus de toi, et puis avoir le courage de marquer des étapes dans ce cheminement, afin de grandir dans la foi, dans le service de l'autre, dans la prière, et de pouvoir ainsi vivre en vérité, un peu plus chaque jour. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Amen. Merci.
Chers frères et sœurs, deux textes pour notre méditation. Tout d'abord dans le livre du Deutéronome, le dernier livre de la Torah, au chapitre 6, les versets 5 et 6. Entendons-les à nouveau. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et puis, à l'autre bout de la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, deux versets également issus du chapitre 10, les versets 30 et 31. Car nous connaissons celui qui a dit dans le livre du Deutéronome : « À moi la vengeance. » À moi la rétribution, et encore celui qui a dit « Le Seigneur jugera son peuple ». Et le verset 31 affirme ceci, « C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant ». Voilà, frères et sœurs, deux textes pour notre méditation, et pour commencer à les méditer, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants Louanges et prières au numéro 296. Nous chanterons les strophes 1 et 3 pour nous rappeler qu'il est doux d'aimer Dieu. Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche. Chers frères et sœurs, aimez Dieu de tout son être, comme le stipule le livre du Deutéronome, est une évidence pour les croyants. On pourrait dire, les croyants, ça aime Dieu. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais si nous prenons la peine de nous interroger sur ce que signifie aimer Dieu, est-ce qu'une once de perplexité ne vous gagne pas un peu ? Aimer Dieu. Quand on y pense sérieusement, qu'est-ce que ça peut bien signifier ? On a déjà du mal à aimer les gens que nous connaissons, qui sont à nos côtés. Alors, songez, aimer Dieu qu'on n'a jamais vu, aimer Dieu dont on n'a eu aucune expérience sensible. Mieux que cela, comment aimer Dieu, nous qui disons avec le théologien Paul Tillich que Dieu est toujours au-delà de Dieu, qu'il nous échappe. Alors nous pouvons essayer une sorte de transposition au sens mathématique du terme, en nous rappelant que Dieu est amour, et du coup, aimer Dieu, c'est aimer l'amour. Et dans ce cas-là, nous prenons un peu la peau de ces jeunes adolescents qui disent qu'au fond, quand on aime quelqu'un, ce qui nous plaît, c'est d'aimer le sentiment amoureux, plus que la personne. Cela ne nous éclaire pas beaucoup plus, je trouve. Alors, pour comprendre quelque chose à ce commandement d'amour qui implique tout notre être, je vous propose de nous mettre à l'école de la théologie de l'expérience, cette théologie qui ne spécule pas, mais qui observe l'être humain et qui fait entrer ses observations avec les textes bibliques. Et l'un des maîtres de cette théologie, c'est Bernard de Clairvaux, un auteur du XIIe siècle, à l'origine de la réforme cistercienne, un des maîtres de la théologie de l'expérience, aussi appelée théologie monastique. Il s'est intéressé très près au sujet qui nous préoccupe, aimer Dieu, à la fois en rédigeant un traité sur l'amour de Dieu, qu'il faut lire avec ses sermons sur le Cantique des Cantiques, qui évoque la question de l'amour. Mais j'ai bien conscience qu'en nous plongeons dans Bernard de Clairvaux, nous risquons d'être un peu abstraits, enfin surtout moi en l'occurrence. Alors pour enraciner notre exploration de l'amour de Dieu dans l'expérience, dans quelque chose qui peut être compréhensible et praticable par nous, j'aimerais puiser dans le récit Tiphaine ou le silence du mois, rédigé par le pédopsychiatre Guillaume Monod, une scène qui nous permettra de relier la typologie de Bernard de Clairvaux à ce que nous-mêmes nous pouvons vivre. Donc le récit concerne une jeune enfant, Tiphaine, qui a 8 ans. Elle est placée dans une unité de pédopsychiatrie suite à un signalement à l'école. Elle a des bleus partout, quelques cicatrices. Toutefois, elle n'a ni fracture ni trace de brûlure. Donc elle est dans cette unité de pédopsychiatrie. Et puis vient un jour où Tiphaine entre en conflit avec d'autres enfants. Alors elle est séparée, elle est emmenée dans sa chambre, elle se débat. Et puis elle mord soudainement jusqu'au sang le pouce de l'adulte qui l'a reconduit dans sa chambre. Alors du coup, il se dégage, il l'enferme dans sa chambre de façon à préserver tout le monde. Et là, elle explose au sens littéral du terme. Elle renverse les tables, elle jette les tiroirs de la commode contre la glace du lavabo. Elle renverse le lit, elle déchire les deux oreillers avec ses dents. Elle finit par taper dans l'armoire, elle en casse la porte et en même temps elle se fait mal, peut-être se casse-t-elle la cheville. Et à ce moment-là, une aide-soignante, Sabine, entre dans la chambre avec un verre à la main et un cachet pour essayer de calmer la crise. Et Tiphaine donne un coup dans la main tendue et le récit précise cela. Elle plante dans les yeux de l'aide-soignante un regard de haine tranchant comme un poignard. Je serais tenté de vous faire une sorte de prédication jeu de rôle. Quelle est la suite de l'histoire ? Eh bien, tout dépend de notre manière d'aimer Dieu. Bernard de Clairvaux constate que la première figure du croyant qui aime Dieu, c'est la figure de l'esclave. L'esclave d'un Dieu maître tout-puissant. C'est un peu le fils aîné de la parabole de l'Évangile selon Luc, où il y a un père qui a 2 fils. Le fils aîné est un peu celui-là, le croyant esclave, qui ne fait pas autre chose que ce que le père lui a dit de faire. C'est l'amour du croyant esclave d'une parole qui tient pour parole de Dieu et qui lui tient lieu de conscience. C'est le croyant qui va puiser dans les textes bibliques la réponse à toutes ces questions. Pour ce croyant, Dieu est tout d'un bloc et ce bloc prend toute la place. Il n'y a donc aucune place pour sa libre interprétation, pour son libre engagement. Il est entièrement l'esclave d'une religion qu'il a reçue. Plus que d'une religion, d'une représentation du monde, de la société. Aimer ce Dieu-là, c'est obéir à la lettre de la consigne, c'est se conformer à l'image qu'on se fait de Dieu. Pourquoi ? Parce que si on n'obéit pas, alors dans ce cas-là, on se retrouve exclu de la communauté des croyants qui se disent en relation avec ce Dieu-là. Le croyant esclave vit dans le registre du même, de la copie conforme. Il vit dans la reproduction du discours, de l'attitude, de la réaction de ceux qui forment avec lui la communauté des croyants. Veux-tu montrer que tu aimes Dieu ? Alors dans ce cas-là, aie une attitude extérieure qui prouve que tu es comme ceux qui, eux aussi, se disent aimant Dieu, croyant. Cette figure appliquée au récit que nous venons de lire conduit à l'exclusion de Tiphaine. Elle est sortie du cadre, aussi bien en agressant des personnes qu'en détruisant des objets. Elle est donc hors jeu, carton rouge. Elle devrait être exclue de l'institution. Cela tient au fait que le croyant esclave ne supporte pas ce qui diffère de la norme qu'il pose comme divine. Aimer Dieu, dans ce cas, c'est protéger Dieu de tout ce qui altère son image en détruisant la cause du problème. Cela signifie que pour le croyant esclave, Toute personne qui a un propos sur Dieu, qui a une vision du frère qui diffère de la sienne, est une menace qu'il faut éradiquer de la manière la plus radicale qui soit. Alors évidemment, au XXIe siècle, Tiphaine ne pouvant plus être traitée de sorcière, elle ne sera pas brûlée. La peine de mort n'étant plus prévue dans le code pénal, elle ne sera pas pendue, mais le principe est là. Pour elle, c'est l'exclusion. On peut évidemment penser à des élèves qui se feront exclure de l'établissement où ils sont, mais de façon plus générale, on peut penser à ces personnes qui se font exclure d'un cercle parce qu'elles ne sont pas dans la norme. Renvoyer hors de nos frontières ce qui ne se coule pas dans le moule. Renvoyer hors de nos frontières tout ce qui varie par rapport à la norme et que l'on considère comme pathologique. Alors comment peut-on passer à une autre étape d'amour, à la deuxième figure de Bernard de Clairvaux? Eh bien, grâce à cette phrase un peu terrible de l'Épître aux Hébreux, c'est une chose terrible que d'être dans les mains du Dieu vivant. A priori, on se dit que celui qui ajuste entre Deutéronome et l'Épître aux Hébreux, c'est le Deutéronome. La bonne phrase, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu comme il faut et de tout ton être ». Et que la mauvaise phrase, c'est une chose terrible que d'être dans les mains du Dieu vivant. Mais un peu d'honnêteté avec nous, lorsque nous songeons à nos expériences de foi, à nos expériences spirituelles, c'est que la vérité, elle est du côté de l'Épître aux Hébreux. Et que c'est une chose terrible, effectivement, d'être dans les mains du Dieu vivant qui ne nous laisse pas indemnes, qui ne secoue comme un prunier pour que nous en venions à de meilleurs sentiments. C'est une chose terrible que d'être Abraham qui découvre un messager venir vers lui pour lui dire « Non, tu ne sacrifieras pas ton fils. Non, tu vas sortir de ce plan fou, de ce plan intégriste et tu vas lui laisser la vie sauve. » C'est aussi une chose folle que de voir un Ponce Pilate, messager de Dieu, dire de ce Jésus condamné par tous « Non, je ne vois rien qui mérite qu'il soit mis à mort. » L'Épître aux Hébreux nous rend compte de ce Dieu qui ne laisse pas les choses en l'état et qui envoie des messagers pour que l'histoire évolue. On pourrait penser à ce pasteur, André Numa Bertrand, qui ici même, dans les années 40, prenait sur lui d'écrire au gouvernement de Vichy pour dire « On ne peut pas continuer sur cette ligne-là. Ça ne va pas. » Le Dieu vivant ne laisse pas dans cet état celui qui se considère croyant. Parce que Dieu aime d'un amour sensiblement différent à cet aimant esclave. Et c'est parce que Dieu aime d'un amour différent du croyant esclave qu'il y a au sein du croyant esclave une sorte de déchirement, une sorte de dialogue intérieur qui tourne au conflit et qui lui évite d'en rester au premier stade de l'amour. Bernard de Clairvaux repère que lorsqu'on est sur le point de basculer vers la deuxième étape de l'amour, il y a une forme de haine qui est générée. La haine de l'autre, mais aussi la haine de soi. Et bien souvent, les personnes que l'on considère comme haineuses sont des personnes qui sont au bord de cette bascule et qu'il faudrait accompagner pour que la bascule ait lieu totalement. C'est qu'elles ne se supportent plus et ne se supportent plus, elles ne supportent plus l'autre. Mais en fait, c'est bon signe. C'est qu'elles sont sur le point d'aimer autrement. Pour Bernard, le stade suivant, c'est le croyant mercenaire. Le croyant mercenaire, c'est celui qui aime un Dieu qui le rétribue selon ses mérites. Alors ce Dieu-là, ce Dieu mercenaire, vaut-il mieux que le précédent, le Dieu maître tout-puissant? Eh bien, en fait, oui. Il est préférable d'aimer un Dieu qui vient fissurer l'image du maître tout-puissant, qui ne peut supporter l'existence d'autre chose que de lui-même, qui ne peut supporter l'existence que d'autre chose que ce qu'il a voulu, parce que cette image d'un Dieu qui rétribue nous met sur la voie d'un Dieu qui n'éradique pas, mais qui va aider à la transformation, qui, à coup de rétribution, va essayer d'améliorer la situation de l'homme. Le croyant mercenaire est donc en quelque sorte un croyant qui est salarié, un salarié par Dieu en fonction de ses actes. Et c'est intéressant parce que cela suppose que nous abandonnons l'idée qu'il y aurait d'un côté les sauvés et de l'autre côté les damnés, que le monde se répartirait en deux catégories, les bons et les impies, ceux du dedans, ceux du dehors. Il y a de la possibilité pour de la correction. Il y a de la possibilité pour de la transformation. Nous plaçons notre confiance dans un Dieu qui juge et qui nous aide à abandonner la part de nous-mêmes qui fait obstacle à notre pleine humanité. C'est le Dieu qui corrige, un peu un Dieu proviseur. La suite, dans ce cas, pour Tiphaine, ce n'est pas l'exclusion, c'est la sanction. Une claque, si jamais l'adulte qui est en face d'elle perd le contrôle de lui-même, du pain sec et de l'eau en régime punitif, plus de sorties d'iPod, ni de SMS, ni de télévision, dans un mode plus domestique. Peut-être quelques corvées à exécuter, après tout, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Cet amour-là a l'avantage sur le précédent d'autoriser une rédemption. L'idée de celui qui est dans cette logique, c'est qu'une rédemption est possible. Cette rédemption se fait dans la douleur, mais elle est envisagée comme possible. Ainsi, nous sommes plus proches de l'Évangile qui relate que Dieu veut le salut de tous, que Dieu, c'est ce qui nous permet de devenir plus humains et d'être l'artisan du bonheur de l'autre. Aimer Dieu de cette manière, c'est déjà être sur la voie d'un Dieu qui libère de ce qui entrave notre vie, de ce qui nous empêche de mener à bien nos projets, de ce qui nous retient des gestes fraternels. Aimer Dieu à la manière d'un mercenaire, c'est déjà faire un pas en direction d'un monde qui ne vit pas sur le mode de l'exclusion, mais c'est en rester tout de même à un état où nous continuons à vouloir conformer le monde à l'image que nous nous en faisons. C'est-à-dire que celui qui corrige, corrige dans l'espoir que celui qui est en face de lui s'aligne sur sa position. Au fond, le croyant mercenaire est ce prosélyte qui veut changer son interlocuteur pour en faire un semblable sur le mode « coupons tout ce qui dépasse, réprimons tout ce qui ne convient pas ». C'est le croyant capable d'ouvrir les camps de redressement, d'ouvrir des écoles pastorales pour enseigner ce qui doit être prêché dans les églises, et qui établira toutes sortes de polices pour traquer les déviances. Alors, à votre avis, elle continue comment, cette histoire de Tiphaine ? Bon, c'est une question rhétorique, parce que si tout le monde commence à donner la réponse, on ne va pas s'en sortir. Mais voici comment, dans les faits, l'histoire a continué. Donc, vous vous souvenez, Tiphaine plante dans les yeux de l'aide-soignante un regard de haine tranchant comme un poignard. Donc là, vous êtes l'aide-soignante. Comment réagissez-vous ? « Écoute, lui dit Sabine, encore plus calmement. Il faut que tu te calmes et que tu nous dises ce qui se passe. » Ça ne sert à rien de nous taper. On est là pour toi, pas pour se faire taper dessus. Tu as fait très mal à Simon, mais il ne t'en veut pas. Petit aparté, Albin Michel, là, a fait du caviardage. Dans la version précédente, c'était « il ne t'en veut pas, il t'a déjà pardonné ». Ce qui est intéressant. Sabine continue. Tu peux nous dire ce que tu veux, qu'on n'est pas gentil, qu'on ne s'occupe pas assez de toi, qu'on est trop sévère, que tu n'es pas contente de nous. Alors, dis-nous ce qui ne va pas et on essaiera de changer ce qu'on peut. On fera tout ce qu'on peut pour t'aider pour que ça aille mieux. » Et là, elle hurle qu'elle ne veut pas des médicaments. Du coup, elle frappe Sabine et elle va de l'autre côté, elle tape sur son matelas et elle pousse encore son lit, elle donne encore un coup de pied dans la table du chevet. Et puis, donnant un coup de pied, évidemment, la douleur ressurgit. Et là, voilà ce qui se passe. Tiphaine s'affale, roule sur le dos, saisit dans ses mains sa cheville enflée et laisse son corps se vider de toutes les larmes qu'elle a accumulées depuis sa naissance. Sabine pose le verre de grenadine, redresse le lit de Tiphaine, y remet le matelas, les draps et la couverture, puis avec autant de tendresse et de pudeur qu'il lui est possible, prend dans ses bras l'enfant, recroquevillé comme une feuille d'automne, et la pose sur le lit. Elle prend un oreiller propre dans le placard, le glisse sous la tête de l'enfant, s'assoit à côté d'elle et lui caresse la tête, les cheveux, ne faisant plus rien d'autre que de recommencer ce geste unique qui arrête le temps. Au bout de longues secondes de silence, Sabine se lève, va chercher le verre de grenadine et l'offre à Tiphaine qui l'accepte. « Tu as mal ?» lui demande Sabine. Tiphaine répond par un hochement de tête pendant qu'elle approche le verre de ses lèvres. Sabine sort de la pièce et revient, une bande de gaz et un tube de pommade à la main. Avec la même douceur qu'elle vient de donner, l'aide-soignante masse la cheville enflammée, tandis que Tiphaine retient à grand-peine des grimaces de souffrance. Sabine, l'aide-soignante, manifeste sans vocabulaire religieux un amour que Bernard de Clairvaux nomme filial. La troisième façon d'aimer Dieu, c'est l'amour filial. C'est un amour qui s'exprime par la gratuité. L'accueil de Dieu au plus profond de soi permet de rétablir des relations humaines qui ne cherchent pas à confisquer quoi que ce soit. C'est un amour qui se fonde aussi sur ce que Bernard appelle la memoria futurorum, la mémoire du futur. Le souvenir de l'éternité, dira-t-il ailleurs. Le croyant qui est animé d'un amour filial, cette troisième forme d'amour, c'est celui qui oriente son désir vers le bien, en ayant peut-être abandonné des formes religieuses, mais en tous les cas, en ayant en tête ce qui peut être bien pour l'autre. Et ce bien, il le mesure non pas en fonction de son intérêt personnel, non pas en fonction de son humeur du moment, mais en fonction de ce qu'il pressent être juste et bon pour l'autre, indépendamment de ses catégories personnelles. Et c'est ce qui permet à l'aide-soignante de pouvoir revenir à la charge avec une même douceur. C'est peut-être aussi ce qui permet à chacun de se tromper encore et de se tromper mieux, et ainsi de pouvoir progresser. Le croyant qui est animé de cet amour filial agit en donnant à l'interlocuteur tous les moyens qui sont à sa disposition pour que cet interlocuteur aille mieux, pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse s'épanouir. Et ça, c'est le geste de l'éthique. Le geste de la morale, c'était le geste précédent, maintenir l'autre dans le cadre que l'on s'est fixé et duquel il ne faut pas sortir. Le geste de l'éthique, c'est de permettre à l'autre de donner le meilleur de lui-même. Et aimer Dieu, c'est alors proposer au monde les moyens de vivre l'Évangile. L'Évangile, qui est cette façon d'engager une pédagogie positive qui va stimuler l'être afin qu'il advienne. Et le travail de cette aide-soignante, c'est de stimuler l'être. Non pas à coup de taloche, mais à coup de caresse. C'est l'éloge de la caresse qui stimule, qui va attirer son interlocuteur vers autre chose que ce qu'il imaginait jusque-là. Plutôt que de faire baisser la tête, Sabine permet à Tiphaine de lever les yeux. Aimer Dieu, c'est faire valoir ce souvenir de l'éternité, pour orienter notre action, pour orienter nos choix, non pas en fonction de notre intérêt du moment, mais selon l'espérance dont les textes bibliques témoignent. Aimer Dieu de la sorte, c'est faire droit à ses intuitions de la transcendance et considérer que celui qui est à côté de moi est digne de cette transcendance-là, que lui aussi, il peut être transfiguré. Il n'est donc pas si grave que nous ne sachions pas trop Dieu, au sens où Dieu échappe à notre connaissance. Cela ne nuit en rien notre capacité d'aimer Dieu. Au contraire, cela creuse en nous le goût de l'infini. Et creuser en nous le goût de l'infini, cela nous prémunit de la tentation de rejeter ou de maintenir en captivité ce qui ne va pas. Ne pas pouvoir définir Dieu, c'est ce qui nous permet de ne jamais porter un regard définitif sur les êtres, sur les choses, sur les situations. Et donc, de pouvoir toujours revenir vers quelqu'un pour être porteur de cette bienveillance divine. L'amour de Dieu dans sa version filiale, c'est une bonne chose. C'est aussi quelque chose d'un petit peu fatigant. C'est la raison pour laquelle c'est une chose terrible que d'être dans les mains du Dieu vivant, car on n'en finit jamais d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller à la rencontre du monde, et c'est ce va-et-vient incessant qui est la trace de l'amour de Dieu. Quand on ne se contente pas de ce qui est acquis. Ce va-et-vient permanent qui ressuscite le désir, qui ressuscite l'humain dans sa quête d'humanité. Et on n'en finit jamais de s'humaniser. L'amour filial est passion, de cette patience dont Tertullien disait qu'elle fatigue le mal. C'est l'amour dont témoigne Sabine, en ne se résignant pas face à la violence de Tiphaine, mais en revenant inlassablement, comme le matou le jour suivant, avec bienveillance, auprès de cet enfant pour laquelle Sabine déploie ce vif souvenir de l'éternité. Cette conviction que Tiphaine n'est pas condamnée à n'être que l'ombre d'elle-même. L'amour filial de Sabine peut faire échec à cette souffrance de Tiphaine, Tiphaine qui se perd dans les dédales intérieurs d'un amour qui ne trouve ni son objet, ni la bonne manière de s'exprimer. Alors c'est effectivement une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant qui ne nous laisse pas tranquilles, parce que cela fracasse notre identité du moment, tout le temps. Souvent. C'est une identité qui se fracasse pour faire place à une nouvelle identité. C'est Jacob qui meurt pour donner naissance à Israël. C'est chacun de nous qui découvre un peu plus précisément, un peu plus sérieusement ce qu'est la joie. Une joie dont Martin Luther disait qu'elle se forge dans l'expérience de la damnation et de la mort. Quel est l'intérêt de cet amour filial ? Eh bien, c'est que l'amour filial ne jette ni le bébé, ni l'eau du bain. Et qu'il considère d'ailleurs que cette eau du bain est une sorte de liquide amniotique qui portera l'être jusqu'au monde. Jusqu'à cette vie véritable, dont la véritable rémunération est l'abondance du bonheur et de la grâce. Amen. Prolongeons cette question de l'amour par le chant du cantique 80. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât. Les strophes 1, 3 et 4. Place. Je pense que notre trésorière nous dira un mot, donc peut-être que notre sacristain lui prépare le micro. Dans les informations, quelques mots sur le synode régional qui a eu lieu le week-end dernier, pour vous dire en tout cas qu'à la sortie du temple, vous trouverez cette plaquette qui donne l'essentiel de l'orientation de l'Église protestante unie pour les 4 ans à venir. Autrement dit, objectif 2017 pour la commémoration des 95 thèses rédigées par Martin Luther, avec cette idée de rédiger 95 thèses pour 2017. 95 affirmations pour notre monde en 2017. Pourquoi ne pas imaginer que la plupart soient rédigées à l'oratoire du Louvre ? Pourquoi ne pas imaginer que nous nous inspirions de cet élan de Martin Luther, pour rédiger 95 thèses qui pourraient faire la promotion de l'amour filial pour notre monde ici et maintenant, plutôt que de laisser le soin à d'autres de rédiger des thèses sur l'amour esclave ou sur l'amour mercenaire. Bien, donc ce document est à votre disposition. Vous dire que le conseil presbytéral de notre église a nommé le nouveau maître de chapelle, c'est Fabien Aubé qui est en bonne compagnie avec notre organiste à la tribune. Donc vous pourrez peut-être le saluer à la sortie du temple, mais de toute façon il vous sera présenté très officiellement lors de la prochaine, lors du prochain office où le chœur se produira sous sa direction. Donc vous en saurez un peu plus sur celui qui accompagne l'homme d'en haut. Vous dire que le week-end prochain, c'est la vente de l'entraide. Cela commence vendredi à 15h, de 15h à 19h. Ici même, vous découvrirez l'oratoire transformé en gigantesque maison familiale avec des comptoirs où vous pourrez laisser tout votre argent pour les œuvres d'entraide de la paroisse, mais aussi rencontrer du monde, profiter du salon de thé, des différents stands. Donc vendredi, c'est de 15h à 19h. Le samedi, c'est de 10h à 18h. Sachez aussi qu'il y a deux déjeuners qui sont organisés, le samedi et le dimanche, et qu'un repas spécifique est prévu pour les jeunes, qui sera d'ailleurs animé par les scouts de notre paroisse. Donc les familles peuvent venir en toute quiétude avec leurs enfants. C'est David Leduc Thia, qui est boursier de l'oratoire au Fonds Ricœur cette année, qui prêchera dimanche prochain. En attendant que notre trésorière vienne prendre la parole, je vous rappelle que nous allons célébrer la scène que nous sommes toutes et tous les bienvenus et qu'à l'issue du culte, un verre fraternel sera servi dans la grande sacristie.
Bonjour à tous et à chacun. Oui, juste un petit mot financier, parce que je pense qu'à fin octobre, au bout de 10 mois d'exercice, on peut déjà avoir une bonne idée de ce que sera l'année 2013. Donc, dans les dépenses de fonctionnement, qui sont les dépenses normales, le budget voté pour les 10 premiers mois de l'année s'était élevé à 323 000 euros. Il a été réalisé et nous avons fait 13 000 euros d'économie, puisque nous n'avons dépensé que 310 000 euros à fin octobre. Sur ces 310 000 euros, 50% correspondent à la contribution régionale, notre cible, entre guillemets, exactement, puisque à fin octobre, elle s'élève à 155 000. Dans les autres postes, aucun poste n'a dépassé les montants budgétés. Le seul poste le plus important et qui est égal au montant budgété est le poste du chauffage, du temple et de la maison de l'oratoire et qui s'élève à 35 000 euros. Je vous rappelle que compte tenu du long printemps que nous avons eu, nous avons chauffé le temple pratiquement jusqu'au mois de juin et que ce poste est le seul qui a atteint le montant budgété. Je crains que vu les conditions météo qu'on a actuellement, c'est le seul poste qui risque de dépasser à la fin de l'année le montant budgété. Pour les autres postes, je dirais aucune remarque spéciale, tout est donc maîtrisé. En dehors des dépenses de fonctionnement, vous aviez voté des dépenses extraordinaires, des dépenses exceptionnelles. Dans ces dépenses exceptionnelles, il y avait 16 000 euros pour l'entretien du sol du temple. Ce montant sera reporté sur l'année prochaine et vous sera proposé au budget 2014. Il n'a pas pu être réalisé car pour faire ces travaux, il fallait que le chauffage du temple soit arrêté et qu'on ait 10 jours de libération du temple. Et compte tenu des météos, de la météo qu'il y a eu au printemps et en été, ce poste n'a pas pu être réalisé. Dans les autres dépenses exceptionnelles, vous aviez voté 33 600 pour nos deux bourses de l'Institut protestant en théologie, l'IPT. Sur ces 33 600, 21 000 euros ont été pris en charge par l'oratoire. Le reste était en pris par la fondation du protestantisme sur les fonds qu'elle a reçus elle-même. Donc sur ce poste-là, également une économie par rapport au montant budgété. Dans les autres dépenses, celles qui étaient ou à prendre en charge ou à immobiliser, vous aviez voté l'amélioration de la sonorisation, l'achat de casques pour les personnes qui entendent moins et la réfection de l'autre côté des WC, des toilettes du rez-de-chaussée du deuxième étage de la maison de l'oratoire. Ces deux postes ont été réalisés et ont été réalisés pour les montants budgétés exactement, respectivement, à 2600 euros pour l'un et à 6000 euros pour le deuxième. Voilà pour les dépenses, donc rien de spécial à signaler. Du côté des recettes, les recettes sont également, à fin octobre, exactement dans les montants budgétés. Les collectes qui avaient été budgétées pour 30 000 euros ressortent à 30 025 euros. Donc vous voyez que nous avons exactement les montants budgétés. Les dépenses d'occupation des appartements et du temple sont légèrement supérieures au montant budgété. Elles s'élèvent à 64 000 euros pour 62 500 budgétés. Donc là-dessus, pas non plus de mauvaises surprises. À fin octobre, les dons réguliers nominatifs, vous savez que c'est eux qui ne sont jamais dans les montants budgétés si on budgète de façon arithmétiquement ces dons, puisque les deux gros mois de réception des dons sont novembre et décembre. À fin octobre, les recettes sont légèrement au-dessus du montant budgété. Elles sont, pas budgétées, du montant réalisé l'année dernière. Elles sont naturellement bien en dessous du montant budgété. Et je vous ai préparé une lettre, la lettre de novembre, la lettre d'automne qu'on appelle. Elle vous donnera toutes les indications sur la répartition de ces montants. Pour des questions d'économie, nous n'envoyons pas cette lettre séparément. Elle va être mise dans la feuille rose qui va partir début décembre, donc dans les 10 prochains jours. Si certains veulent cette lettre d'avance, j'en ai mis des exemplaires, elles sont sur la table à la sortie. Si à fin octobre, les dépenses, les dons réguliers nominatifs étaient bons, j'ai plus d'inquiétude sur le mois de novembre, car à vendredi, donc avant-hier, parce que je n'ai pas regardé le courrier, nous n'avions que 13 000 euros sur le mois de novembre contre 42 000 l'année dernière. Donc, à vendredi, le total des dons réguliers perçus s'élève à 120 000 euros pour une cible qui, je vous rappelle, a été votée à 186 000 euros pour l'année. Il nous reste donc 66 000 euros, c'est-à-dire plus de la moitié des dons déjà perçus dans les 10 premiers mois à encaisser d'ici la fin de l'année. À titre indicatif, je vous signale que les dons à l'oratoire en 2012 s'élèveront de 10 euros à 5 000 euros. Donc je pense que dans cette palette de dons, chacun pourra trouver le créneau qui lui convient. Et je vous rappelle qu'il y a plusieurs moyens de faire des dons. Soit nominatif, vous le mettez dans une enveloppe en ayant soin de mettre dessus vos noms, prénoms et vos adresses pour recevoir un reçu fiscal correspondant. Cette enveloppe, vous pouvez ou la déposer ou la mettre dans la collecte ou la donner au secrétariat. Vous pouvez, par carte bleue, Jean-Claude Durand a un terminal là-bas qui vous permet de faire des dons en carte bleue. Vous pouvez faire des dons aussi sur Internet en allant sur le site Dons en ligne. Vous pouvez donner par chèque en le déposant au secrétariat ou dans la collecte. Donc un panel de montants et des moyens de dons qui sont à votre disposition. Et je vous propose de revenir le 15 décembre pour vous faire un point, vous dire où on en est là-dessus. Et tout d'abord, merci à tous ceux qui nous ont permis d'arriver déjà à ces montants. Et merci d'avance à tous ceux qui nous permettront d'approcher le plus possible du montant de notre cible. Merci.
Donc c'est maintenant la période d'entraînement pour tous les dons possibles. C'est le temps de l'offrande.
nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est pour nous bonheur et joie de te louer, Dieu notre Père, car tu nous donnes la vie et l'espérance. Tu as envoyé ton Fils et il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit et il est devenu notre paix. C'est pour nous l'évangile de l'émerveillement que toi, Seigneur, tu sois notre Père. Que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde. Que l'Esprit-Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. Et aussi, nous t'adorons et nous te bénissons.
Souvenons-nous que pendant que Jésus et ses disciples mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs ». Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Nous nous unissons dans la prière. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans notre cœur et dans le monde, de telle sorte que puisse accomplir l'espérance que contient cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, que nous te disons en communion avec tous les membres de ton peuple en nous levant dans l'attitude des ressuscités. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ainsi, c'est sans aucune crainte que vous pouvez, si vous le désirez, participer à ce repas et prendre le pain et ou boire dans la coupe en signe de votre désir de vivre de tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi bien rester à votre place pour méditer ou bien joindre le cercle et, en signe de fraternité et passer le plat et la coupe à votre voisin. Venez, nous dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de l'Alliance versé pour la multitude, pour le pardon de tous. Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du Seigneur ressuscité. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Accorde-nous de vivre de cette nourriture et de te célébrer toujours avec joie, et d'être ainsi témoin du véritable Évangile. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, l'amour de Dieu nous conduit. L'amour de Dieu nous accompagne et nous fortifie, jour après jour, inlassablement. Amen.